Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le grand retour du Canu Info du lundi après 2 semaines d'absence. Et on va commencer donc par annoncer ce qu'on va raconter aujourd'hui.
Ah, vas-y.
Ah, on a les micros allumés.
Ouais, c'est mieux.
Donc à l'international, on va parler du droit à l'avortement aux États-Unis. On parlera aussi de Frontex, vous savez, le bras armé de l'Europe. Et puis on prendra des nouvelles de Hong Kong, puisqu'il y a une petite news depuis la dernière fois qu'on en a parlé, ça remonte un peu.
Et puis au national, on parlera d'un scandale policier autour de Dylan.
Et on finira au local avec un interview du collectif Anticra qui lutte donc contre le centre de rétention lyonnais.
Et on commence cette émission avec nos désormais traditionnelles brèves.
Oui, donc d'abord une annonce très rapide sur la publication d'une tribune publiée par plus de 100 personnalités et organisations contre la dissolution de la GAL sur Mediapart. Pour n'en citer que quelques-uns et une, on y retrouve Virginie Despentes, Philippe Poutou et même Olivier Besancenot, ouais. Yannis Yolontas ou encore Anas Kazib. Entre autres, on vous laisse aller voir. La dissolution de la GAL, on vous en a déjà parlé. Donc la GAL, c'est un groupe antifasciste de Lyon, donc groupe antifasciste de Lyon et environ. Et les arguments pour sa dissolution sont plus que douteux. Si vous n'avez pas suivi, raison de plus pour aller lire la tribune qui se trouve assez facilement sur Internet en tapant tribune GAL Mediapart. Et une fois que vous êtes dessus, on vous invite à la partager le plus possible. Petite info aussi, cette décision de dissolution de la GAL, elle passe ce mercredi devant le Conseil d'État. Donc ce sera une affaire à suivre, on aura sûrement plus d'infos à vous donner la semaine prochaine ou un peu plus tard en fonction du rendu.
Et pour continuer sur un sujet dont on avait pas mal parlé aussi dans l'émission, c'est à propos du procès de Deliveroo. Mardi 19 avril, le tribunal de Paris, correctionnel de Paris a condamné la plateforme de livraison Deliveroo à une amende de 375 000 euros, le maximum qui est prévu pour le délit de travail dissimulé. Le tribunal oblige aussi l'entreprise à afficher pendant un mois cette condamnation en page d'accueil de son site. Et les deux anciens dirigeants français sont condamnés pour le même délit à 30 000 euros d'amende, un an de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de diriger une entreprise avec sursis aussi. La société Deliveroo est aussi condamnée à verser 50 000 euros de dommages et intérêts aux 5 organisations syndicales qui s'étaient portées partie civile. Une première victoire donc qui devrait en appeler d'autres et ouvrir la voie à des requalifications en contrat de travail salarié pour les livreurs faussement auto-entrepreneurs. Et puis peut-être la voie à des régularisations pour ceux d'entre eux qui seront alors des salariés sans papier.
Et c'est pas parce que Macron a été réélu que les batailles sociales disparaissent. Petit tour d'horizon des grèves qui ont émergé ici et là depuis le 1er mai. La colère gronde d'abord dans le groupe Safran, l'un des fleurons français de l'aéronautique, du spatial et de la défense. Ce 5 mai, les salariés du groupe Safran donc étaient à nouveau appelés à la grève, un mouvement qui fait suite à une augmentation salariale annuelle jugée insuffisante parce que le groupe, lui, a fait un bénéfice net de 43 millions l'année dernière. Courage à eux. Ça se bagarre aussi en Moselle. Depuis que Neuhäuser a été racheté par le géant de l'agroalimentaire Invivo, les militants CGT sont confrontés à une offensive répressive de la direction qui leur inflige retrait de salaire, mise à pied et menace de licenciement. Et donc, face à des sanctions disciplinaires jugées et qui sont arbitraires, les salariés de Neuhäuser se sont mis en grève pour soutenir leurs collègues. La solidarité reste notre arme. Et aussi, le 25 février, Lumina Service, sous-traitant de Amazon, annonçait sa fermeture de sites et plus 9 licenciements par un moyen très 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 sympa, un texto à ses salariés. Oui, un texto. Les 9 salariés licenciés encore sous contrat, avec parmi eux 8 travailleurs sans papier, n'en démordent pas et se mobilisent depuis plus d'une semaine avec 6 journées de grève pour leur salaire, leur emploi et la régularisation de leur titre de séjour. Enfin, la grève continue aussi du côté de Bordeaux, c'est au CHU de Bordeaux, au service des urgences pédiatriques. Urgentistes qui sont en colère face au manque de moyens et au mépris de la direction. Jeudi 5 mai donc, une partie du personnel des urgences pédiatriques était présent sur le piquet de grève organisé devant l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, et ce, malgré les assignations obligatoires pour garantir un service minimum. Les urgentistes sont obligés d'enchaîner des charges de travail plus lourdes et sans cesse des heures supplémentaires, ce qui peut aboutir à des erreurs justement médicales. Les services étant constamment saturés, les urgentistes alertent donc à la santé, quant à la santé des enfants qui sont ainsi mis en péril par le système néolibéral.
Et puis, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs. Il est bien condamné à 4 ans de prison, dont un ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Son épouse Pénélope est condamnée à 2 ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende. C'était, on le rappelle, pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux. En fait, c'était les 3 emplois fictifs de Pénélope Fillon comme assistante parlementaire auprès de son mari et de son suppléant entre 1998 et 2013, pour lesquels elle a perçu la modique somme de 612 000 euros net.
Et ouais, et puis du coup, on va passer à l'international.
International.
Et tout de suite, on commence avec un sujet sur une manifestation pour le droit à l'IVG mise en cause aux États-Unis.
Oui, la semaine dernière, donc plus précisément lundi 2 mai dans la soirée, il y a déjà plusieurs centaines de manifestants et de manifestantes qui se sont immédiatement rassemblés devant la Cour suprême à Washington suite aux révélations du journal Politico sur l'avant-projet qui remettait en cause le droit à l'avortement par la Cour suprême des États-Unis. Dans la nuit du mardi 3 mai à mercredi 4 mai, la nuit suivante, c'est plusieurs milliers de manifestants qui ont pris la rue dans de nombreuses grandes villes états-uniennes, brandissant des foulards verts en référence au mouvement argentin pour le droit à l'avortement, face à une police prête à en découdre. À Los Angeles, par exemple, des militants et militantes témoignent de tenues anti-émeutes et de nombreuses attaques de la police qui allaient au contact des manifestants. Ce qu'exigent les manifestants, c'est le retrait du projet réactionnaire de la Cour suprême qui souhaite abroger l'arrêt Roe versus Wade, un arrêt de cette même Cour suprême qui garantissait depuis 1973 le droit à l'avortement au nom du droit constitutionnel à la vie privée des femmes. Le droit à l'avortement était déjà largement inégal entre les différents États qui forment les États-Unis et régulièrement attaqué. comme au Texas avec l'adoption d'une loi qui restreignait l'avortement à un délai de 6 semaines de grossesse, ou encore en Oklahoma avec la décision de pénaliser les professionnels de santé qui pratiquent l'avortement. Mais là, l'abrogation de l'arrêt Roe versus Wade qui a été annoncée par la Cour suprême signifie la suppression complète d'un droit constitutionnel et un retour en arrière sans précédent qui laisserait véritablement le champ libre à chaque État pour légiférer sans contrainte sur le droit à l'avortement. Les États les plus conservateurs pourraient donc adopter des interdictions pour des millions de femmes mettant leur vie en danger. Les manifestants dénoncent bien sûr le fait que les femmes qui ont les moyens pourront toujours avoir accès à l'avortement en se déplaçant dans les États les plus progressistes, tandis que les femmes les plus précaires seront les plus impactées. Après la publication par le journal Publico des intentions de la Cour suprême de remettre en cause le droit à l'avortement, différentes figures du Parti démocrate ont élevé la voix, bientôt suivies par le président Joe Biden qui a appelé pour les élections de mi-mandat à choisir des candidats favorables à l'IVG. Mais le journal The Left Voice dénonce une prise de position hypocrite qui vise à calmer et à canaliser la colère des manifestants sur le terrain électoral, puisque depuis des années que les démocrates ont prétendu être les défenseurs du droit à l'avortement, à chaque fois qu'ils ont été à la tête des États-Unis et même majoritaires dans les deux chambres du Congrès, ils n'ont voté aucune loi pour consolider le droit à l'avortement au niveau fédéral. Au contraire, pendant qu'ils étaient en poste, les droits à l'avortement se sont lentement fait rogner dans différents États. Pour l'instant, on souhaite que la mobilisation dans la rue ne faiblisse pas et on envoie notre solidarité au mouvement féministe aux États-Unis.
Après les États-Unis, on parle de l'Europe puisqu'il y a des choses à dire sur Frontex.
Oui, connaissez-vous Frontex, cette agence européenne créée en 2004 dont le nom exact est, je cite, « Agence européenne pour la gestion de la coopération aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ». Cette agence est basée à Varsovie et c'est le véritable bras armé et pas qu'un peu de la politique antimigratoire européenne. Ses ressources, depuis sa création, ont été en constante augmentation. En 2006, l'UE lui a loué 19 millions d'euros. En 2014, 97 millions d'euros. En 2016, 254 millions d'euros. Et puis en 2021, carrément 1 milliard d'euros. Alors aujourd'hui, il y a 2000 gardes frontières répartis dans 20 pays européens. Et les prévisions pour 2027, ce serait de carrément arriver à 10 000 agents répartis sur plus de 20 pays en Europe. Frontex, c'est une agence qui est dotée d'une personnalité juridique autonome, qui peut par exemple signer des accords avec des pays non membres de l'Union européenne, comme n'importe quel pays membre de l'Union européenne. Il n'y a absolument aucun contrôle des parlements nationaux sur cette agence. En gros, Frontex et ses agents agissent en toute impunité pour faire la chasse aux migrants et aux migrantes. Leurs pratiques complètement illégales et mortifères sont connues de longue date. Leurs outils de contrôle sont sans cesse plus importants. Des bateaux, des hélicoptères, des détecteurs de mouvement, des détecteurs de chaleur humaine. Tout est bon pour refouler les migrants et les migrantes à la frontière, voire même en dehors des frontières. Récemment, de nombreuses enquêtes de médias européens, dont par exemple Le Monde ou Le Guardian, pour ne citer que ces deux-là, ont révélé l'utilisation illégale et massive de renvois en mer par les agents de Frontex et leur couverture a été révélée et leur protection directe par l'Union européenne et les membres de la Commission européenne. De nombreuses vidéos documentent la façon qu'ont les gardes-côtes donc de Frontex de capturer des personnes migrantes, pourtant arrivées sur le territoire européen et donc en droit de déposer une demande d'asile. On y voit ces gardes-côtes de Frontex embarquer de force des migrants ou des migrantes placés sur des pneumatiques hors des eaux européennes, bien souvent livrés directement aux gardes-côtes libyens, avec les conséquences que l'on connaît pour ce qui se passe en Libye pour les migrants et les migrantes dans les centres de rétention. Selon Guardian, au moins 40 000 personnes ont été repoussées illégalement, ne serait-ce que pendant le premier grand confinement, et 2 000 personnes y auraient perdu la vie. Petit rappel, triste rappel, depuis 2014, au moins 20 000 migrants et migrantes seraient morts en Méditerranée, selon l'ONU, en partie à cause des actions de Frontex. Alors, histoire de faire mine, de faire quelque chose, l'Union européenne a sommé l'actuel directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, de démissionner. Fabrice Leggeri, c'est un Français, un ancien haut fonctionnaire qui a été formé dans les préfectures, il a été plusieurs fois sous-préfet, il a également été formé au ministère de l'Intérieur, puis il est passé par la Commission européenne. Vraiment un très beau parcours, et il est donc à la tête de cette jolie agence depuis 2015, et c'est lui qui a tout fait pour essayer de gratter le plus d'argent possible et renforcer les moyens de contrôle de son agence. Alors il a quand même démissionné ce 29 avril dernier, Mais cette sanction est purement symbolique, ce n'en est pas vraiment une. Rien n'a été fait et rien n'est prévu par la Commission européenne pour changer le mode de fonctionnement de Frontex, un fonctionnement opaque qui laisse les agents avoir les mains libres pour repousser les migrants aux frontières de manière totalement illégale. Cette agence est une machine de mort qu'il nous faudra un jour ou l'autre détruire dans son intégralité avec l'Union européenne et toutes les instances au milieu et en grande partie la Commission européenne. Nous, ce qu'on prône et on le prônera toujours, c'est la liberté de circulation et d'installation à la destruction des frontières.
Et on passe maintenant vers Hong Kong, où on parle d'un nouveau président.
Oui, voilà, donc il y a eu un changement de pouvoir à Hong Kong, mais vous allez le voir, sans grand changement. C'était tout juste hier que le comité électoral, et on reviendra sur cette entité un peu plus tard, a élu le nouveau dirigeant de Hong Kong, qui succédera donc le mois prochain à Carrie Lam, dont vous avez déjà pas mal parlé en 2019 et en 2020, à l'époque des énormes manifestations contre une loi permettant à Pékin d'appliquer sa répression sur les militants hongkongais comme s'ils étaient en Chine continentale. Alors, c'est un certain John Lee qui a été élu. Il faut dire quand même qu'il n'y avait pas trop de surprises possibles puisqu'il était le seul candidat approuvé par Pékin et donc le seul candidat pour lequel il était possible de voter. Et puis, tant qu'on y est, revenons sur donc, ce fameux comité électoral qui a donc choisi le nouveau dirigeant de Hong Kong. Il est composé de 1424 personnes. Et ces 1424 personnes, elles ont été sélectionnées sur un critère, leur patriotisme chinois. C'est la règle imposée par Pékin depuis l'année dernière et le nouveau code électoral qui a été mis en place donc en 2021, l'année dernière. Pour résumer donc, 1424 personnes ont choisi, elles-mêmes choisies par Pékin, parce qu'elles obéissent à Pékin, ont pu voter pour un seul candidat, lui-même choisi par Pékin. Donc il n'y a pas de blague, mais quand on vous dit qu'il n'y avait pas de surprise possible, on n'exagère pas. Et en effet, donc, John Lee a été élu à 99,4% avec quelques abstentions et apparemment 3 ou 4 personnes qui ont voté contre. L'absurde n'a d'ailleurs pas de limite dans les dictatures, parce que s'il a été approuvé par Pékin en tant que candidat, il a d'abord dû être proposé par un comité de sélection, comité dirigé par John Lee lui-même. Quand les Hongkongais disent qu'ils ne vivent pas en démocratie, eux, ils n'exagèrent pas non plus. Alors, ce John Lee, c'est qui ? Eh bien, c'est surtout un flic. C'était le chef de la sécurité de la ville, notamment en 2019, au plus fort des manifestations. Il était surtout en charge de la vidéosurveillance et de l'identification des militants dans un premier temps. Puis c'est lui qui a supervisé la grosse répression policière et militaire qui a mis une fin définitive au mouvement de rue hongkongais. Il semble avoir été récompensé par Pékin pour sa fidélité. Depuis cette période, il avait par contre fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis et il est donc interdit d'entrer sur le territoire américain. Mais vous l'aurez compris, surtout avec l'actualité ces derniers temps, ce type de sanctions ne sert pas à grand-chose. Par avance, hier, toutes les manifestations avaient été interdites et 7000 policiers avaient été mobilisés pour empêcher toute forme de rassemblement. La seule manifestation qui a eu lieu à notre connaissance comptait 3 personnes, des membres de la Ligue des sociodémocrates, mais qui sont loin d'être les personnes qui ont anonymement pris la rue il y a 3 ans et ont subi très fort la répression. Bref, ça n'augure rien de bon pour Hong Kong. On ne peut s'attendre qu'à un serrement de vis encore plus sévère et une marge de manœuvre pour la population de plus en plus réduite. D'ailleurs, pour le moment, la réponse de la population semble surtout être celle de l'humour. Une page Facebook recense toutes les erreurs grammaticales de John Lee, que ce soit en chinois ou en anglais, puisqu'il semblerait qu'il soit assez nul en grammaire. Et cette page semble faire sensation à Hong Kong. On leur souhaite quand même de trouver d'autres modes d'action, même si ça semble vraiment de plus en plus difficile.
Et pour se détendre après toutes ces bonnes nouvelles, on va se mettre un petit casé et zone libre, purger ma peine, ça fait longtemps.
jours que l'on met en quarantaine. Je suis de ces parasites dont on parle à l'antenne. Moralité, la sécurité des lieux n'est pas certaine. Je crame, je brûle, je hurle, je gueule. Je traîne en ville en bande ou même déambule seul. J'ai un rôle colossal à la cave et au sous-sol. Je recherche l'étincelle mais j'ai paumé ma boussole. Alors je bois, je fume, je noie ma flemme. Je crois aux flammes, j'acclame la haine. Mes larmes et mes peines n'impressionne personne et on me traite de hyène sur toutes les ondes hertziennes. On se moque de mes œdèmes et de mes états d'âme. Tout m'ordonne en fait de ne pas vivre à l'état d'homme. Et moi que l'on nomme l'individu bas de gamme, qu'on me dégomme sur le macadam serait le minimum. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La et dans mon sang, mes peines, inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine, inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'ai le ventre à terre et on m'en veut à tort. Je n'ai aucun de leurs critères pour monter à bord. Mon dortoir est autant solitaire qu'en retard. Beaucoup trop près de l'arbitraire et ses avatars. Ce qu'on déplore en clair, c'est que je ne sais pas plaire. Embrasser l'étendard, applaudir en fanfare. Et on me fait dire qu'il faut bannir ma colère. Et puis faire taire mes nerfs à vif et mes nombreux molars. Mon calvaire n'est réduit qu'à un bruit de couloir. Un parcours vulgaire qui manque de bon vouloir. On dit que ma cité n'est pas le défouloir de flics ailés, un triste défilé d'abus de pouvoir. Et mon itinéraire n'est ni mort, ni tout noir, ni bétonné, ni à mille bornes des plus beaux territoires. Mon teint n'est pas non plus maintenu sous le tonnerre. Attendons le meilleur, commençons les prières. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La âme est dans mon sang, mes peines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Allez-y, utilisez la science ou la raison. Criez à l'hérésie, protégez vos maisons. Vivez l'instant présent avec l'air amusé. Et dressez des cloisons pour les faibles et les frisés. Et écrasez quiconque voudrait fouler vos gazons. À chaque carreau brisé, réclamez la prison. Et bâtissez maintenant tous vos propres musées. Car très bientôt vos nuits ne seront plus apaisées. Le climat est pesant, les gens sont épuisés. Veulent les têtes des méprisants sur le banc des accusés. Le projet est séduisant et les larmes aiguisées. Qu'il serait plaisant de tous les saigner à l'île. Vous ne faites plus illusion, vos promesses sont usées. On va venir embraser tous vos salons tamisés. J'ai déjà composé le chant de vos oraisons. Je suis désabusé, j'ai la nausée et pas mal de lésions. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La âme est dans mon sang, mes peines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et c'est toujours le Canu Info du lundi. On est le 9 mai 2022. Et voilà, vous venez d'écouter Kazé et Zone Libre, le tube Purger ma peine.
Et est-ce qu'on passerait pas au...
Bah oui.
National.
Et au national, on parle du scandale policier autour de Dylan.
Encore une histoire accablante pour la police. Quelques semaines après qu'un policier ait ouvert le feu à l'arme de guerre sur une voiture refusant de s'arrêter pour un contrôle à Paris, ce qui a tué deux jeunes hommes noirs, voici que Mediapart révèle la suite d'un vrai scandale juridico-policier. 5 ans après que des flics ont été brûlés dans une attaque à Viry-Châtillon en Essonne, une enquête de Mediapart montre l'ampleur d'un fiasco policier et judiciaire qui a conduit pas mal d'innocents à passer des années en prison avant d'être finalement acquittés par la cour d'assises des mineurs de Paris en appel en avril 2021. Cette histoire, qui concerne une dizaine de jeunes, est aussi celle de celui qui a choisi de se nommer Dylan. Dylan a été accusé à tort d'avoir grièvement blessé l'un des policiers en 2016 sur la base de faux procès-verbaux rédigés par les enquêteurs. L'affaire a été construite de toutes pièces par les flics et elle a valu à Dylan 18 mois de détention pour rien. Tout commence donc un soir d'octobre 2016 à Viry-Châtillon en Essonne. Après une attaque contre les flics, Dylan est placé en garde à vue. Il est interpellé chez lui à l'aube, quelques jours après les faits, car son nom figure sur une liste de présumés coupables soutirée par les flics de manière très douteuse à l'abri des caméras à Bilal, l'un des principaux témoins de l'affaire. Sauf que les enquêteurs n'ont rien contre Dylan. Pourtant, ça ne les arrête pas. Ils veulent absolument l'inculper. Ni une ni deux, la solution est toute trouvée. Fabriquer de fausses preuves en rédigeant de faux procès-verbaux qui déforment les propos du principal témoin de l'affaire, Bilal. Entre le vrai et le faux, il n'y a que quelques mots de flic écrits à la hâte. C'est ça aussi le pouvoir de la police, tordre le cou au réel pour produire des coupables qui correspondent à leur représentation raciste. Une partie du scandale avait déjà été révélée donc à travers des enregistrements vidéo, des gardes à vue, où l'on voit les flics insulter plusieurs jeunes, les intimider, parfois en les décourageant de faire appel à un avocat, ou même parfois en proposant des petits deals, des petits arrangements extrajudiciaires entre eux et la famille. Depuis le procès en appel en 2021 qui a révélé ces pratiques frauduleuses, Dylan a porté plainte contre la police de sûreté départementale de l'Essonne pour faux en écriture publique, violence volontaire et tentative d'escroquerie au jugement. Mais, l'un des policiers n'a pas attendu longtemps pour répliquer en portant à son tour plainte contre Dylan pour menace. Inversion entre victime et bourreau classique. Même acquitté donc, Dylan n'a pas du tout l'impression que justice ait été rendue. Non seulement il est à nouveau accusé par un flic, mais en plus, il n'a reçu aucune réparation, aucune indemnisation pour les 18 mois passés en tôle. Dans le même temps, droite et extrême droite, indignés par les acquittements, dénoncent une justice trop laxiste. Cherchez le problème. Une indécence pour ceux qui ont fait de la prison pour rien. Cette affaire en tout cas montre bien le lien entre paroles policières et décisions judiciaires. Le poids des procès-verbaux sont exorbitants dans les jugements rendus. De la version policière influence effectivement largement l'entièreté de la procédure, de la mise en examen, le placement en détention et même le renvoi. Cette histoire donc montre encore une fois qu'il est bien temps d'abolir la police.
Sacrément bien dit. Et on enchaîne tout de suite avec...
Local.
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 Local. Et ce soir, on est ravis d'accueillir des membres du collectif Anticra, qui lutte contre les centres de rétention à Lyon. Bonsoir.
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 Merci d'être venu. Est-ce que vous voulez bien commencer par présenter le collectif et par nous rappeler un peu comment fonctionne Anticra et qu'est-ce que c'est ?
Oui. Du coup, on fait partie du collectif Anticra. Un CRA, donc c'est un centre de rétention administrative. C'est une prison pour les personnes sans papiers. Et en fait, c'est un endroit où on enferme les gens en vue de les expulser du pays, mais aussi pour les réprimer, pour les contrôler. Il y a différents acteurs dans les centres de rétention. Il y a notamment la PAF, qui est la police aux frontières, mais il y a aussi des médecins, des assos qui sont plus ou moins complices, et plein d'autres personnes. Et donc, nous, on est un collectif qui est pour l'abolition de ces centres et pas pour la négociation et le réformisme des conditions des CRA. et on lutte en soutenant en premier lieu les luttes qui ont lieu à l'intérieur.
Ok. Est-ce que vous pourriez faire un petit bilan de la situation actuelle à l'échelle nationale des CRA? Apparemment, il y a quand même pas mal de constructions qui ont lieu.
Ouais, bah ça fait depuis 2019 là. C'est Gérard Collomb entre autres qui a été à l'initiative de ça, où il y a une série de constructions qui sont en cours pour créer encore plus de places dans les centres de rétention. Donc notamment actuellement, il y a des constructions en cours à Bordeaux et à Orléans, où il y a des petites oppositions locales, et à Lyon, où en fait le CRA, il a ouvert en début d'année là. Et il y a aussi l'extension du Ménil-Amelot en ce moment à Paris. Du coup voilà. Et sinon, dans un cadre plus global, il y a aussi toute la période du Covid qui a joué un énorme impact dans les prisons, mais du coup aussi dans les centres de rétention, où ça a été un durcissement de l'enfermement, avec tout un tas de procédures qui ont été numérisées avec du distanciel, notamment les JLD, etc., la suspension des visites, et voilà, où ça a été encore plus dur en fait dans les CRA. Et aussi où du coup on voit qu'il y a certaines des procédures qui ont été mises en place à ce moment-là qui sont en train de rester, et notamment beaucoup de gens qui sont allés en prison pour des refus de test, parce qu'en fait les gens sont la plupart du temps expulsés par avion, et du coup pendant la période du Covid, pour être expulsé par avion, bah, il fallait se faire tester. Du coup il s'arrivait régulièrement que pour pas se faire expulser, des prisonniers décident à juste titre de refuser le test, sauf que c'est considéré comme une opposition à une décision de justice, et du coup bah, y a des gens qui prennent de la tôle pour ça, quoi. Et y a beaucoup d'échanges entre la tôle et le CRA.
Et ça continue, c'est pratique.
Ouais, ça continue même maintenant. Ouais. Et voilà, et puis sinon là, en décembre, il y a eu des fortes luttes au Ménil-Amelot, justement pendant la période du Covid, pardon, où il y a eu un cluster en fait, et ce qui a amené à des luttes assez fortes au Ménil-Amelot à Paris. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a eu une tentative d'évasion cette semaine, une tentative d'évasion collective à Vincennes, qui a échoué, qui a amené à une grève de la faim. Là. Et puis, dans un autre contexte aussi, à Paris, là, le 8 mai, il y avait un rassemblement appelé par des syndicats et des collectifs antifascistes pour demander la fermeture et la régularisation des personnes sans papier.
Et plus précisément, si on parle un peu de la situation à Lyon, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui se passe, notamment depuis l'ouverture du coup d'un deuxième CRA?
Ouais, du coup le nouveau CRA en fait, qui se situe toujours à Saint-Exupéry, pour situer à Lyon et dans la plupart des villes en fait, les CRA ils sont près des zones où les expulsions se passent. Donc à Lyon c'est l'aéroport Saint-Exupéry et la zone industrielle qui est autour. Du coup il y a un nouveau CRA qui a été construit. Et du coup, il y a un transfert des prisonniers de l'ancien CRA vers le nouveau qui s'est passé le 17 janvier. Il y a eu une action d'ailleurs pour s'opposer au transfert qui a eu lieu. Et du coup, l'ancien CRA, il a servi pendant un temps de CRA Covid, entre guillemets, où en gros, toutes les personnes qui avaient le Covid dans les CRA de France, ils étaient envoyés à l'ancien CRA de Lyon. Et donc voilà. Et bon, là, on constate déjà que malgré les trucs qui sont avancés comme argument pour construire des nouveaux CRA en mode bon, il va y avoir des nouvelles, meilleures conditions pour les détenus et tout, bah, il y a déjà des problèmes d'insalubrité, des égouts qui se bouchent, il y a plusieurs témoignages qui nous sont revenus de galères à cause du réseau qui est très mauvais, du coup des difficultés à contacter les proches, encore plus d'isolement, des bruits d'avions constants. Ils ont aussi mis en place tout un tas de nouvelles technologies de contrôle avec... Bah, ils ont installé des filets en haut pour éviter qu'il y ait des gens qui passent des trucs, des passes numériques à toutes les portes, etc. Et tout, voilà.
Il y avait un témoignage notamment, je me rappelle, qui disait que au moins dans l'ancien CRA, ils voyaient le ciel, quoi.
Pour dire, ouais, c'est ça. Ouais, c'est assez dur. Et aussi, il y a un truc, c'est que dans le nouveau CRA, les blocs ils sont séparés les uns des autres. Il y a là où dans l'ancien, il y avait un peu de passage de l'un à l'autre. Là, c'est très, très compartimenté, aussi bien que quand il se passe des trucs dans un autre CRA, enfin dans un autre bloc du CRA, et ben les autres gens ne savent pas ce qui se passe, en fait. Et notamment, on a vu ça le 28 février, en fait, où il y a eu un mouvement de protestation au sein du CRA, où en fait, dans un bloc, il y a eu un départ d'incendie. Du coup, ça a créé un gros mouvement de panique dans le CRA parce que les autres blocs ne savaient pas vraiment ce qui se passait, et il y a eu plusieurs blessés parce que ils sont, enfin, il y a une mise en danger des détenus par le personnel du CRA qui a pas voulu dire tout de suite ce qui se passait et tout parce qu'ils avaient peur que ça dégénère. Et du coup, il y a eu plusieurs blessés. Il y a des personnes qui sont impliquées dans, enfin, ou qui sont supposées impliquées dans le départ de l'incendie, qui ont été envoyées en prison après une garde à vue au CRA. Et ouais, bah, voilà. Et du coup, ça a été un peu un moment de panique pour tous les gens qui avaient là-bas. Du coup, et c'est là aussi on a vu que cette séparation, elle était un peu délétère pour l'organisation et la cohésion au sein du CRA, parce que du coup, les gens ne savaient pas trop ce qui se passait. On a reçu beaucoup d'appels de gens paniqués. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, apparemment, on a appris que cet incendie, il avait endommagé les systèmes de contrôle du CRA. Apparemment, tous les systèmes d'ouverture numérique et tout, ils sont capoute à cause de l'incendie. Donc, ce qui est plutôt drôle. Mais,
voilà. On s'en réjouit, plutôt.
Oui, voilà.
Et peut-être, avant de venir dans le détail des actions du collectif ou de ce que propose le collectif anti-CRA à Lyon, est-ce qu'on peut préciser un peu ce que signifie être abolitionniste pour le collectif anti-CRA ? Qu'est-ce que c'est comme position politique et comment on obtient l'abolition?
Du coup, la position politique abolitionniste, c'est que dans notre idée, notre but final, c'est du coup que les CRA n'existent plus. Mais on est bien conscient qu'avec les actions qu'on mène, ça ne va pas arriver rapidement et facilement. Et on est aussi conscient que c'est une lutte qui est indissociable de plein d'autres luttes, comme par exemple l'abolition des frontières, des droits et des papiers pour toutes les personnes sans papiers, et aussi l'abolition de toutes les prisons et tous les centres d'enfermement qui existent en France. Donc voilà. Et une position qu'on a dans le collectif, c'est aussi que cette lutte pour l'abolition des CRA, elle vient aussi beaucoup des personnes qui sont enfermées à l'intérieur, qui vivent les CRA en premier lieu, quoi. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a vraiment une position de soutien et de relais de la parole et des luttes de l'intérieur, parce qu'on pense que c'est une bonne manière de lutter contre les CRA et de tendre vers l'abolition de ces centres.
Et justement, tu parlais de publication de témoignages, mais est-ce que vous pouvez faire une petite présentation des différentes actions qui sont faites par le collectif ?
Alors, en gros, on a, y a plusieurs gros blocs de choses qu'on fait. Donc, on essaye de prendre contact et d'apporter du soutien à l'intérieur. Et donc ça passe par exemple par des appels. Donc, en fait, dans les différents blocs des centres de rétention, il y a des cabines téléphoniques qu'on peut appeler depuis l'extérieur. Et donc, c'est ce qu'on fait pour prendre un premier contact. On appelle et on discute. On demande aux personnes ce dont elles ont besoin, quelle est leur situation. Et on essaye de créer un contact et de voir si ces personnes veulent le garder pour avoir des infos et pour pouvoir les aider. Et du coup, avec ça, on apporte du soutien. Donc, dans, par exemple, la communication avec des proches, on peut aussi proposer de leur rendre visite et pour discuter avec eux, pour leur amener des choses dont ils auraient besoin, comme du tabac, des téléphones sans caméra, des choses comme ça. Et l'autre partie un peu des actions qu'on mène, c'est plus du coup de la visibilisation de la lutte anti-CRA par exemple des événements publics comme des manifs, des cantines de soutien, des choses comme ça. Et aussi le relais de la parole des personnes de l'intérieur en faisant par exemple des témoignages, en publiant des choses sur les réseaux sociaux, trucs comme ça.
Oui, ça passe aussi par l'alliance avec des collectifs qui sont en dehors des CRA mais qui ont des luttes qu'on considère comme alliés, donc par exemple des collectifs de sans-papiers qui luttent aussi pour l'abolition des CRA et pour la régularisation. Du coup, on fait des manifs avec elles quand il y en a, ou aussi des collectifs abolitionnistes de la prison, donc des collectifs anticarcéraux, etc. Ça arrive régulièrement qu'on participe à des événements ensemble parce qu'on considère que lutter contre la prison, c'est aussi lutter contre les CRA et inversement, quoi.
Et d'ailleurs, est-ce que vous voulez revenir rapidement sur un des derniers événements publics qui a eu lieu, ne serait-ce que le week-end dernier ?
Ouais, du coup, ce week-end, vendredi soir, il y a eu une cantine qui est organisée pour récolter des fonds, justement, pour l'aide matérielle aux prisonniers. Du coup, voilà, donc c'était Place Mazagran et après à l'annexe de l'espace communal de la Guillotière. L'idée, c'était de faire une cantine et de profiter à la fois de la cantine à Place Mazagran pour discuter avec les gens qui étaient à Maza, etc. Et du coup aussi de récupérer des thunes pour pouvoir, quand il y a besoin, dépanner du tabac, des cartes SIM, des tels, etc. Et, ou quand les personnes sortent, pouvoir les aider, etc. aussi, quoi. Voilà.
Et dans ces différents outils pour justement massifier un peu la question des CRA, il y a aussi un travail un peu d'anti-REP, en tout cas de prévention, qui a été mis en place, il me semble.
Oui, il y a des brochures qui sont écrites. Il y a aussi la volonté, là c'est des actions qu'on va mettre en place dans les prochains temps, mais dans les zones où il y a régulièrement des arrestations, qui genre par exemple dans les gares routières, etc., de mettre des trucs pour visibiliser le fait que dans ces endroits-là, il y a des arrestations de la PAF, quoi. Et ouais, ça passe aussi par un travail de brochure et de lien avec d'autres collectifs, quoi.
Et parce qu'il faut rappeler aussi que toutes les personnes qui sont placées en centre de rétention à Lyon, ça couvre toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ouais.
Ça veut dire que c'est pas seulement les arrestations qui ont lieu à Lyon. Ou...
Ouais, même pas. Même des fois, il y a des gens qui sont arrêtés dans d'autres villes et qui, pour des raisons X ou Y, sont amenés à Lyon. Enfin, c'était pas mal le cas pendant la période de Covid, quoi, où il y a des personnes qui étaient arrêtées à l'autre bout de la France et qui étaient envoyées au CRA Covid de Lyon. Maintenant, l'ancien CRA, il est en travaux. Du coup, c'est plus le cas, mais ouais.
Est-ce que vous voulez rajouter d'autres éléments?
Non, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Mais si vous voulez nous suivre, il y a la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, Facebook, Instagram et tout. On relaye un peu ce qui se passe, les événements qu'on fait, les nouvelles de l'intérieur. Sinon, le mieux, ça reste d'aller sur notre site. Donc, crametoncra.noblog.org. Et sinon, on a aussi créé une cagnotte Papayou pour aider matériellement. Ça va dans la lignée de l'événement qu'on a fait, quoi, d'essayer de récolter des thunes pour l'aide matérielle des prisonniers et des prisonnières. Et sinon, on reste rejoignable. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés de nous rejoindre, il y a la possibilité de nous envoyer un mail à lyonanticra@riseup.net et on vous répondra et on pourra vous intégrer à nos réus pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà.
Et ben, merci.
Vous n'avez pas prévu d'en parler parce que le nouveau CRA, il est construit et terminé depuis un moment.
Ouais.
Mais vous avez mentionné le fait qu'il y avait des associations qui étaient complices. Mais on peut peut-être citer juste rapidement les entreprises qui ont participé à la création du CRA et qui donc ont gagné de l'argent sur la construction de cette prison raciste et classiste. Je me permets de le faire. De toute façon, je crois que c'est tiré d'un article que le collectif avait écrit il y a quelques années. Le premier, c'est le groupe Eiffage, donc qui a remporté l'appel d'offres de la construction et qui construit par ailleurs beaucoup de prisons. Et qui était assisté par l'entreprise ICAMO. Ensuite, il y a eu d'autres entreprises qui ont fait de plus petites parties de la construction. RI2L pour l'architecture, Cogessi pour la structure, Artelia pour l'électricité, Ganta pour l'acoustique, Ogos pour le mobilier. Et puis, donc, la construction est terminée, mais encore maintenant, il y a des gens qui gagnent de l'argent sur le dos de cette prison et des gens qui sont enfermés dedans. Donc, il y a Eiffage Energy System pour l'exploitation et la maintenance et GSF pour, alors, entre gros guillemets dans l'article que je lis, l'hôtellerie et EODD pour l'ingénierie.
Mais c'est vrai que c'est important de préciser, comme tu disais, que l'abolition, elle peut se faire que dans une perspective et de lutte contre le pouvoir d'État et de l'enfermement de tous ceux qui considèrent comme des non-désirables, contre à la fois la politique migratoire européenne, mais aussi, il ne faut pas oublier que les CRA, c'est un business, quoi.
Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui se font plein de thunes sur l'exploitation. D'ailleurs, c'est absolument atroce, mais il y a même certaines entreprises qui construisent des CRA et qui embauchent en plus et qui exploitent des travailleurs sans papier dans des conditions horribles, quoi. Donc il y a grave un lien avec l'abolition du capitalisme, quoi. Et tu parlais des entreprises qui avaient qui avaient participé à la construction de l'ancien CRA, mais actuellement du nouveau CRA, mais actuellement l'ancien CRA, il est en travaux et on n'a pas fait de recherche, mais c'est sûr qu'il y a encore une poignée de entreprises qui sont en train de se faire des thunes en rénovant l'ancien CRA. Quoi. Donc,
c'est toujours intéressant de chercher qui fait ça, parce que ça donne des idées pour des actions.
Oui, c'est clair.
Y compris les associations qui sont à l'intérieur, d'ailleurs.
Qui c'est sont, le résultat d'un... Qui sont, elles, subventionnées par l'État français. Hein, donc, elles touchent pas mal de pognon. Elles sont réparties un peu plus qu'avant. Avant, c'était juste la CIMADE. Maintenant, il y en a beaucoup plus depuis l'appel d'offres sous Nicolas Sarkozy. Hein, mais on n'oublie pas non plus les assos qui co-gèrent la politique anti-migratoire au sein des centres de rétention et qui sont bien grassement subventionné par l'État français.
D'ailleurs, Forum Réfugié, Star d'Asile pour Palestine.
Ordre de Malte.
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un article qui est sorti sur Médiacité, justement, sur la maltraitance aussi, le mal-être des travailleurs et travailleuses de Forum Réfugié qui subissent la pression de la direction quoi, de Forum. En tout cas, merci d'être venu pour ces explications et pour cette interview. Et à bientôt.
Au revoir.
On va vous mettre les liens sur notre blog, hein, le mail, le site internet, etc. Comme d'habitude, si vous voulez retrouver un peu plus d'informations sur le collectif Anticra et sur les luttes à venir contre les centres de rétention en général. Est-ce qu'on se met une petite musique avant de passer à l'agenda ?
Allez.
Mais c'est quoi cette musique ?
Eh bien, cette musique, on reste dans le rap français avec une autre rappeuse qui s'appelle Catégorique. Et qui nous met un morceau qui s'appelle Pas la peine. Petit clin d'œil.
L'écriture avant le blaze, le cœur avant les liasses. Tu te rappelles, soldat qui pop à la vie, à la mort. On m'a dit qu'à tes restes authentiques,
pas la peine.
Ne ment pas au rap, sinon autant que tu le dis,
pas la peine.
Garde la tête froide, bosse ta race, pied ton cœur, écris tes textes pour t'arrêter, faudra te l'arracher. Les gens qui m'aiment savent de quel poids ma race se chauffe. M'arrêterai pas sauf si la faucheuse me fouille. J'ai fait confiance à ma douleur et ma peine,
pas la peine.
Y'a des soldats à la peine, si tu veux te battre,
pas la peine.
Répète King Kong dans un corps de moustique.
Récès King Kong.
Quatre trucs, je suis compris à mes semblés. Rappe avec les pansements parce qu'un jour on va me sembler. Je mange des pierres si on me dit de rester solide. T'attends pas à des morceaux jolis. Je rappe que des choses horribles. Et homie, regarde mes yeux quand je te parle. Non, non, encore mieux, regarde mes yeux quand je te slash. J'ai pas peur des hommes, je crois qu'ils m'ont déjà tout fait. Quand je suis bien dans, j'ai un micro, un stylo et déjà tout fait. En un beat, je vais l'étouffer, messieurs les condés à votre trait. Je punis ces rappeurs comme si je les avais accouchés. Tibli check check catégorie online. Nick tes chèques, j'rappe parce que j'suis borderline. J'suis pas la rose, j'suis l'épine et j'pique. Et si tu niques mon son, y'a toute une armée qui rapplique. On m'a dit qu'à tes restes authentiques,
pas la peine.
Ne ment pas au rap, sinon autant que tu dis,
pas la peine.
Garde la tête froide, bosse ta race, pied ton cœur, écris tes textes pour t'arrêter, faudra te l'arracher. Les gens qui m'aiment savent de quel poids ma race se chauffe. J'm'arrêterai pas sauf si la faucheuse me frôle. J'ai fait confiance à ma douleur et ma peine,
pas la peine.
Y'a des soldats à la peine, si tu veux te battre,
pas la peine.
Je suis l'enfant du tonnerre, la sœur de ceux qui doutent. Je suis le sang de la foudre, je suis le son de la foule. Le sens, le flot, la fougue. Je suis la voix de ceux qui doutent, de ceux qui mettent fin à ton air. On veut du rap, nous, quand ça fait boum tchac, quand y'a des choses qui nous barrent et que tu te bats. Boum. On a la même base, on vit dans le même monde, on voit les mêmes signes. Pourquoi je vois des capitalistes à la place des MC? C'est trop facile de baisser les armes,
motherfucker.
Je crache mon hip-hop dans ta face,
motherfucker.
C'est pour ce quand du venin à la place des larmes. Quand un break beat dans le crâne et qui reste droit,
motherfucker.
Tibili check check catégorique frontline. Les échecs ne m'effraient pas, c'est juste des détails. Non, rien n'est rose, tout est gris et triste. Et on persiste parce qu'ici y'a pas de porte d'exil. On m'a dit qu'à tes restes authentiques,
pas la peine.
Ne ment pas au rap, sinon autant que tu le dis,
pas la peine.
Garde la tête froide, bosse ta race, pied ton cœur, écris tes textes pour t'arrêter, faudra te l'arracher. Les gens qui m'aiment savent de quel poids ma race se chauffe. Je m'arrêterai pas sauf si la faucheuse me fouille. J'ai fait confiance à ma douleur et ma peine,
pas la peine.
Y'a des soldats à la peine, si tu veux te battre, qui sont parés à jumper et briser leur cou, de monter le son pour casser les couilles défendues. Ils ont prétendu que le hip-hop était mort, enterré six pieds sous terre. On refuse de lâcher, on va le ressusciter. Montrons-leur la flamme.
rentre dans nos rétines. La vibe de notre musique est tout ce qu'on en retire. Attitude, partage, force et courage. Parlons d'unir nos voix pour stopper leur carnage. Les seuls, sans l'aide de personne, on ne s'étonne plus. Des épreuves et des tonnes de déchets à carboniser, on se donne. Parce qu'on a tous conscience qu'il faut pas écouter ceux qui disent que c'est la thune qu'il faut viser. Tibili, check, check, catégorie punchline. Mon son est pesé à la tonne comme du pétail. Moi j'aime la prose, grâce à elle on résiste. On se défend et s'exprime, grâce à elle on existe. On m'a dit qu'à tes restes authentiques. Pas la peine, ne vont pas au rap, sinon autant que tu le dis. Pas la peine, garde la tête froide, pense d'arracher. Ton cœur écrit tes textes pour t'arrêter, faudra te l'arracher. Les gens qui m'aiment savent de quel poids ma race se chauffe. M'arrêterai pas sauf si la faucheuse me fausse. J'ai fait confiance à ma douleur et ma peine. Pas la peine, y'a des soldats à la peine. Si tu veux te battre, c'est pas la peine.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est le Canu Info du lundi. Vous venez d'écouter Catégorique, ça c'est le nom de la rappeuse, et le nom de du morceau c'était Pas la peine. Et on passe tout de suite à notre traditionnel agenda.
Et oui, à l'agenda, on commence par ce mercredi 11 mai. Il y aura de 16h à 20h une permanence de santé à l'espace communal de la Guillotière, comme tous les 2e et 4e mercredis du mois, il me semble. Ça se passe donc, l'adresse de l'espace communal de la Guillotière.
Au 27 rue Salomon-Rénac, c'est à l'annexe de l'ECG.
Ah oui, pardon, c'est à l'annexe
c'est pas grave,
de l'espace
communal, nous ne t'en voulons
de la Guillotière,
pas.
Mais c'est un agenda participatif aujourd'hui, et oui, puisqu'il est très bien préparé. Ensuite, toujours mercredi, il y a à l'Amicale un atelier du groupe Soins sur thérapie et psychédélique de 18h à 21h. Et là, l'adresse de l'Amicale.
Rue Sébastien Griff, vers le 32, 35, 37, par là.
Voilà.
Ouais. Ensuite, à côté de la place Mazas, tout le monde connaît la place Mazagran.
Voilà, presque en face de la place Mazagran. Samedi 14 mai, vous avez, en cas de problème ou de questions sur vos droits en tant que travailleur ou travailleuse, la permanence d'accueil du syndicat CNT Interco 69 entre 11h et 13h. Puisque les permanences sont tous les deuxièmes samedis du mois entre 11h et 13h. Et cette fois, je connais l'adresse, c'est le 44 rue Burdeau à Lyon 1er. Et puis, pour finir, dimanche 15 mai, il y a une mobilisation, pas tout à fait à Lyon, mais pas très loin, contre la déviation de la RN 88. C'est donc la fameuse lutte des sucs dont on a pas mal parlé aussi dans cette émission. Il y a un rendez-vous au champ des patates, donc vous allez planter ensemble un champ de pommes de terre sur un terrain menacé par le futur tracé de la RN 88. Donc le rendez-vous est donné à 10h30 au lieu dit Cellier. Le code postal c'est 43-260 Saint-Pierre-Hénac. Et ensuite, après ce rendez-vous, vous partirez tous ensemble à pied vers le champ pour ce fameux plantage de patates contre la déviation de la RN 88 qui va détruire des terres agricoles. Rendez-vous en Haute-Loire, dimanche 15 mai.
Et on avait eu un entretien téléphonique de participants à la lutte des sucs dans un Canu Info pas si lointain que vous pouvez retrouver si vous avez envie de la réécouter.
Et nous, on vous dit sans doute à la semaine prochaine.
C'est même sûr.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Away.
les gars, on continue même si on
c'est jusqu'au bout qu'il faut qu'on bosse.
Car la vie c'est pas un hamac. Si on s'épuise, tu sais que c'est pour que ça pèse. Ouais. C'est dans nos liens qu'on puise pour qu'enfin un jour nos âmes s'apaisent. Ouais. Un principe qu'on se repose. La réussite ça se travaille comme l'or du pharaon, même si on repart à 11. Faut pas lâcher, brigadier garde à vous. Si c'est la guerre, on a ce qu'il faut. Tu sens que ça part d'un
j'entends
coup.
Parler dimanche aux folies. Où les frères dansent, ouais. S'alcoolisent. Moi je suis au KF, cause BFK à l'obis. L'échantillon de la CAD à son BNS. Pour que les gosses des causes de la CAD naissent bien